bien, ben, bonjour à tous. Nous voici réunis pour la deuxième table ronde de l'après-midi, donc organisée donc, par Radio Corpus Tours pour la Vegan Place. Deuxième table ronde que nous avons intitulée « Penser les liens entre patriarcat et exploitation animale », thème qu'on a pensé à l'occasion de la réédition de l'ouvrage de Carol G. Adams, écrivaine et activiste américaine. On a perdu un micro dans l'histoire. Écrivaine et activiste américaine, donc, qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végane », publiée en 1990 aux États-Unis et traduit en France en 2016 uniquement. Ouvrage qui établit les liens entre la domination masculine et la consommation de la viande, et aussi toutes les autres formes d'oppression d'ailleurs. Voilà. Que ce soit lié au système patriarcal, donc soit l'oppression vis-à-vis des femmes, des animaux, des classes ou des races sociales. L'idée de cette table ronde est donc de pouvoir poser un peu la question des liens entre le patriarcat et l'exploitation animale, au-delà donc de la consommation de la viande, mais de considérer plus le système de l'exploitation animale, donc le spécisme en conséquence, en lien avec le système de domination qu'est le patriarcat, dont le sexisme en est une expression, on va dire, criante. Pour nous accompagner dans cette compréhension renouvelée de l'impact du patriarcat sur l'exploitation animale et pour réfléchir ensemble aux luttes possibles et aux solutions aussi, nous accueillons Émilie Dardenne et Lila M.
Bonjour.
Je vais vous les présenter l'une et l'autre. Donc Émilie Dardenne est membre de l'Institut universitaire de France, professeure des universités à l'Université Rennes 2. Spécialiste des études animales, un champ interdisciplinaire qui étudie les relations entre humains et animaux et la représentation de ces derniers dans la culture, le langage, la littérature, l'histoire. Elle dirige le DU Animaux et Société, qu'elle a contribué à créer et a publié, outre des articles et des volumes collectifs, deux monographies, Introduction aux études animales et Considérer les animaux, une approche zoo-inclusive, donc publiée aux presses universitaires de France. Voilà. Lila M. est la créatrice du compte Réfuté sur les réseaux sociaux, donc sur lesquels elle partage du contenu au sujet des luttes sociales, en particulier l'antispécisme et le féminisme. Inscrite dans une démarche critique, elle s'efforce de baser son activisme sur des données, des arguments solides et de contribuer à partager les outils méthodologiques pour équiper et renforcer les mouvements sociaux, dont elle se consacre principalement à la vulgarisation sous différentes formes. En parallèle, elle étudie la psychologie sociale et environnementale, domaine qui permet d'éclairer notre rapport aux autres, et donc aux autres animaux, depuis une perspective à la fois sociologique et psychologique. Donc voilà, la table ronde va se dérouler de la manière suivante. On va un peu lancer les échanges, et puis vous allez pouvoir présenter votre vision du thème. Et sur la seconde partie, vous serez amené à poser des questions, si vous le souhaitez. Donc, au fur et à mesure des échanges, essayez de garder en tête, inscrivez sur votre téléphone, les questions qui vous viennent à l'esprit pour pouvoir après les poser à nos interlocutrices. Voilà, alors, pour commencer, peut-être l'une et l'autre, pouvez-vous poser un peu les termes de nos échanges autour des définitions des différents aspects que j'ai un peu évoqués, mais très légèrement. Donc, définition du patriarcat, du spécisme, et plus largement des oppressions et systèmes de domination qui nous traversent.
Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça a l'air de marcher. Du coup, le patriarcat, c'est un système dans lequel les hommes dominent les femmes. Pour la faire très simple, c'est l'idée générale. Ça implique du coup des rôles sociaux genrés, c'est-à-dire que les hommes vont avoir le rôle de dominant qui va passer par la violence, la valorisation de la force, de caractéristiques qui sont considérées comme masculines, et inversement les femmes vont être dans une posture plus docile, plus dans l'attente, dans du coup la soumission, une forme de soumission aux hommes. Le spécisme, c'est un système de domination qui se base sur la domination des autres animaux par les êtres humains, donc un système qui place l'humain comme étant supérieur à tous les autres animaux, animaux qui sont eux-mêmes hiérarchisés en différentes catégories. Donc on pourrait dire qu'en gros, le patriarcat ou le sexisme, c'est le système qui se base sur la discrimination sur le sexe ou le genre, tandis que le spécisme, c'est la discrimination qui se base sur l'espèce ou les autres catégories non humaines. Deux éléments lie le patriarcat et le spécisme, c'est la structure qu'ils ont. Donc typiquement, les deux sont composés de ce qu'on appelle la bicatégorisation hiérarchisée. Donc il y a deux éléments importants, c'est le fait qu'on catégorise en deux ou plus catégories. Donc typiquement, les hommes versus les femmes, les humains versus les non-humains. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une hiérarchisation. Donc c'est les hommes au-dessus des femmes et les humains au-dessus des animaux. C'est vraiment les deux éléments fondateurs qu'on retrouve en fait dans toutes les dominations. Par exemple, dans le racisme, c'est les blancs versus les non-blancs, et les blancs dominent les non-blancs. Et on peut le retrouver dans plein d'autres dominations. Je ne vais pas faire la liste exhaustive, ce qui serait, je pense, impossible. Et je vais laisser la parole à Émilie Dardenne pour compléter ça.
On pourrait peut-être aussi définir l'oppression comme vous le proposiez, parce que c'est quelque chose qui permet de penser les deux approches et plus. Et je vous propose la définition de l'oppression donnée par Iris Marion Young, qui est une théoricienne féministe. Et elle parle des cinq visages de l'oppression. Le premier visage de l'oppression. Et c'est important de donner cette définition parce qu'elle s'applique aussi bien à l'oppression des femmes qu'à l'oppression des autres animaux. Le premier visage de l'oppression, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est l'extorsion du travail d'autrui. Le deuxième visage de l'oppression, c'est la marginalisation. Ça, c'est ce que Young appelle le visage peut-être le plus dangereux de l'oppression. C'est quand autrui est expulsé en dehors de la vie sociale. Le troisième visage de l'oppression, c'est quand on est démuni. On est privé d'autorité, privé d'autonomie sur soi-même, sur son propre corps, par exemple. C'est typiquement le cas des animaux non humains dans les situations où ils sont élevés pour leur chair. Un quatrième visage de l'oppression, je pense qu'on va en parler un peu aujourd'hui, c'est l'impérialisme culturel. Ça veut dire que les systèmes oppressifs mettent en place des systèmes culturels qui passent par la culture, par les productions livresques, par la publicité, par le langage aussi, et qui invisibilisent les opprimés. Et puis le cinquième visage de l'oppression, c'est la violence. Lila a utilisé le terme violence. La violence est vraiment centrale dans les systèmes oppressifs. Et elle est souvent permise par ces systèmes, voire elle est légitimée par ces systèmes. Donc ça, c'est l'approche de Young de l'oppression. Et on peut peut-être compléter par une autre définition qui est celle de Xavier Dunoza qui vient aussi d'une revue de la littérature féministe, qui nous dit que l'oppression, simplement, ce sont les violences qui instituent et qui maintiennent un rapport de pouvoir. Donc dans l'oppression, il y a le fait d'imposer une domination, mais aussi de la maintenir dans le temps. La domination, c'est les violences symboliques qui légitiment ce rapport de pouvoir. Et l'exploitation, c'est le mobile, en fait. C'est l'objectif de l'oppression, c'est de pouvoir effectuer une extorsion du travail d'autrui.
Merci beaucoup. Du coup, c'est, effectivement, on voit tout le système un petit peu oppressif qui peut agir dans nos sociétés, qui nous traverse aussi, qu'on nous-mêmes, parfois, on maintient sans s'en rendre compte. Pour ce qui est du spécisme d'un côté et du sexisme aussi, puisque c'est un peu ce qui nous préoccupe plus, est-ce que d'après vous, dans ces éléments en jeu, il y a des similitudes entre le spécisme et le sexisme, et à quel niveau, de quelle nature ?
Absolument, on a déjà commencé un peu à aborder ça dans la définition même du spécisme et du sexisme, dans le fait qu'elles se constituent de la même manière, et on le retrouve en fait, on peut appliquer plein de théories, Imi en a cité quelques-unes. Il y a aussi la théorie de Talcott Parsons qui définit du coup les systèmes d'oppression. Donc lui, il s'est vraiment intéressé à la notion de système. Qu'est-ce que ça veut dire faire système ? Et donc lui, ce qu'il dit en gros, c'est qu'il y a trois sous-systèmes qui fonctionnent les uns avec les autres. Il y a le sous-système économique, le sous-système juridique et le sous-système culturel. Et ça, c'est un exemple de une théorie qu'on peut appliquer à la fois au spécisme, au sexisme et encore une fois à toutes les autres oppressions. Donc par exemple, le système économique, ça va être le fonctionnement économique de la société repose sur l'oppression d'autrui. Dans le cas des animaux, c'est extrêmement clair, il y a les abattoirs, les subventions, on voit que ça participe, ça contribue très fortement au système économique. Dans le cas des femmes, il y a eu toute une théorisation de la part des féministes sur le travail gratuit, notamment le travail domestique des femmes, qui en fait permettent la continuité économique, il y a aussi tout le travail reproductif de faire en fait des enfants et s'en occuper pour qu'ils soient utiles à la société. Donc il y a vraiment, elles ont une, un rôle dans le fonctionnement économique de la société et elles en retirent un bénéfice qui est moindre que celui des hommes. Le sous-système juridique, c'est les lois. Donc là, tu as le code personnel juridique, il y a deux aspects. Il y a à la fois le côté vraiment juridique un peu brut, j'ai envie de dire, le fait que les lois, ça est inégalitaire. Donc typiquement, dans les animaux, ça se voit notamment... Alors déjà, entre les distinguos humains-non-humains, typiquement, le fait que les humains soient considérés comme des personnes et que les non-humains ne soient pas considérés comme des personnes, c'est déjà une distinction arbitraire. Et ensuite, au sein des animaux eux-mêmes, il y a des distinctions qui sont faites. Typiquement, l'exemple vraiment absurde, c'est la corrida. Le fait de dire oui, la corrida s'interdit, sauf sur tel territoire, parce que bon, là, c'est OK. Donc vraiment, le côté très arbitraire de on autorise la mise à mort parce que c'est comme ça. Et le deuxième versant du sous-système juridique, c'est le laxisme législatif. Donc ça va être que même quand c'est interdit, on va tolérer certaines violences. Typiquement, dans le féminisme, ça va être le cas des viols, des violences sexuelles de manière générale. Même si c'est illégal, concrètement, dans la loi, c'est très rarement condamné, c'est souvent... condamner, c'est très très difficile à prouver, à faire reconnaître. Il y a aussi tout un discours, ça, on va en parler dans le sous-système culturel, et là on voit comment il s'alimente de « mais elle l'a cherché » ou « est-ce que c'était vraiment un viol ?» Enfin, tous ces discours-là qui sous-tendent en fait l'impunité des agresseurs. Et dans le cas le sous-système culturel, justement, alors Émilie là, en a parlé, on en a parlé aussi avant, mais c'est justement tous ces... les stéréotypes, les idées, les discours qui sont portés, typiquement les expressions qu'on utilise, c'est un très bon exemple. Le fait de dire t'es bête, le mot bête, il est pas neutre, il renvoie justement à cette animalité. Ou le fait que justement l'animalité elle-même soit chargée, genre dire à quelqu'un tu te comportes comme un animal, c'est péjoratif parce que l'animalité est elle-même chargée négativement. Donc ça rentre dans tout le système culturel où on entretient l'idée que les animaux sont moins bien que les humains. Et de la même manière, dire à quelqu'un tu te comportes vraiment comme une femmelette. Typiquement, c'est insultant parce que la féminité est elle-même chargée négativement. C'est le même principe et donc c'est le système culturel qui du coup va renforcer le système juridique, le système économique, etc. Donc on voit que les deux en fait font système. Et ça s'explique notamment parce qu'il y a des racines communes, comme toutes les oppressions. Il y a un conflit sur les ressources et donc pour s'approprier les ressources, on va faire des catégories, comme on l'a dit avec les catégorisations. Et ensuite, on va dénigrer l'autre pour pouvoir s'approprier les ressources. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup à cette bicatégorisation hiérarchisée. Donc il y a des racines communes dans la structure, les éléments matériels qui font que les oppressions naissent. Et ça se retrouve aussi au niveau psychologique. On a aussi des racines communes au niveau psychologique dans les oppressions. On sait par exemple que les gens qui sont plus racistes sont aussi plus sexistes, plus spécistes. Et qu'en fait, tout ça fonctionne comme un système global. Il y a des racines psychologiques, il y a notamment le roi et la SDO qui sont deux variables. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails. Mais du coup, le roi, c'est l'autoritarisme de droite et la SDO, c'est l'orientation à la dominance sociale. En gros, il y en a un... je vais reprendre mon truc pour être la plus claire possible. Pardon.
Sur les structures psychologiques, c'est essentiellement aussi les processus mentaux qui vont... Oui. Déterminer Absolument. Après nos conduites et nos comportements.
Oui, et du coup dans le roi, c'est la tendance à penser que le monde doit être d'une certaine manière, donc c'est les attitudes autoritaires en fait, le fait de valoriser l'ordre, la sécurité, typiquement les discours politiques de dire il faut redresser ce pays, il faut un leader fort, c'est typiquement des discours qui relèvent de l'autoritarisme de droite. Et le deuxième élément, du coup, c'est la SDO, l'orientation à la dominance sociale. Là, ça désigne une préférence pour les hiérarchies. On va dire, OK, il y a des groupes dominants, des groupes dominés. C'est bien, c'est une bonne chose. Le monde doit être comme ça. Et en fait, ces deux éléments, ils sous-tendent plein d'oppressions. Ils sous-tendent les tendances à voter à droite. Ils sous-tendent les tendances au racisme. Ils sous-tendent les tendances au sexisme, les tendances au spécisme, etc. etc. Et on voit qu'en fait, il y a quelque chose de commun qui génère ces oppressions. Je vais m'arrêter là, je vais te passer la parole.
Oui, peut-être je peux rebondir sur la notion du langage qui est vraiment importante et commune aux deux formes, sur le fait que les animaux non humains comme les femmes peuvent être invisibilisés par le langage, déjà par les catégories qui sont établies. Quand on dit l'homme, est-ce que ça vous évoque une personne de sexe masculin ou est-ce que ça vous évoque un caractère générique qui désigne toute l'humanité ? Donc le mot « l'homme » est polysémique, il renvoie aux deux, ça veut dire qu'en fait le paradigme, c'est-à-dire le modèle, c'est l'homme, l'être humain de sexe masculin. Et c'est exactement la même chose du côté animal, parce que quand on dit l'animal, en fait on renvoie à tous les animaux non humains, Quand on le mot animal biologiquement peut intégrer, en fait intègre l'être humain, mais au niveau culturel, il exclut l'être humain. Donc il y a les deux sens. C'est vraiment des façons de construire la domination par le langage ou l'exclusion par le langage qui est très similaire dans les deux cas. Un autre élément du côté du langage qu'on peut souligner qui marche aussi dans les deux, c'est l'utilisation des métaphores. Et on ne se rend pas forcément compte que les métaphores sont des choses éminemment idéologiques, mais elles le sont. Je peux donner deux exemples. Le premier exemple, c'est le mot « bitch », que vous connaissez certainement, importé de l'anglais, qui veut dire une femme plutôt immorale. En fait, « bitch », au départ, ça veut dire « chienne » en anglais. Donc en fait, on estime qu'une chienne, c'est un animal femelle immoral. Donc déjà, il y a un jugement porté sur les chiennes. Et après, on projette ce mépris sur les femmes qui sont désignées comme « bitches ». Une autre métaphore qu'on peut...
L'exemple de la poule aussi, quand on désigne une femme comme étant une poule, c'est un peu le même mécanisme.
Exactement. Et on peut utiliser à peu près n'importe quelle espèce animale pour désigner une femme, une tigresse, une poule, une chatte, etc. Et chez les animaux non humains, c'est pareil. On peut prendre un exemple du cochon. J'aime bien donner l'exemple du cochon parce que c'est l'animal le plus exploité. C'est la chair la plus consommée au monde, la chair de cochon. Et si on considère toutes les métaphores qui utilisent des cochons pour les animaliser, c'est-à-dire pour les réduire à un niveau inférieur, les exclure de la vie sociale, il y en a plein. Un exemple, quand on dit à quelqu'un « tu vis dans une porcherie », on renvoie implicitement, on n'a même pas besoin de le dire, au fait que ça veut dire que les cochons sont sales et que donc on peut exploiter les cochons en toute impunité. Et donc prendre conscience que les métaphores sexistes, mais les métaphores évidemment spécistes, c'est des cadres culturels extrêmement puissants parce qu'on n'en a pas conscience de les identifier et de les mettre en parallèle aussi, c'est très important.
Donc effectivement, il y a des points communs entre spécisme et sexisme au niveau finalement des structures psychologiques qui préexistent, on va dire, à ces expressions-là, et aussi dans le langage et dans la culture que tous on concourt malheureusement parfois à continuer. Une fois établi ce lien donc, entre spécisme et sexisme, est-ce que selon vous, les animaux, si on parle un peu intersection, est-ce que les animaux peuvent aussi subir du sexisme ? Est-ce que il y a vraiment une intersection possible entre ces deux oppressions ?
À titre personnel, je pense qu'il faut faire peut-être attention à pas trop projeter justement l'existence d'un sexisme sur les non-humains. Typiquement, il y a un peu le courant féministe qui dit que les femelles sont particulièrement exploitées dans l'exploitation animale et que du coup on est sexiste avec les non-humains, enfin les non-humaines en l'occurrence. Je pense que c'est une analyse qui est un peu erronée dans le sens où effectivement il y a une l'exemple qui est souvent donné, c'est celui des vaches laitières qui sont exploitées, on les force à faire des bébés, on les viole, et pour leur prendre leur lait et pour en faire des bénéfices. Et je pense que cette analyse, elle est erronée dans le sens où il y a effectivement une distinction sexuée, du coup, on distingue les mâles et les femelles, et on va exploiter les femelles d'une certaine manière. Mais il n'y a pas de hiérarchisation. Les femelles ne sont pas considérées comme inférieures et en vertu de cette infériorité, elles devraient être exploitées. Les mâles sont aussi exploités, sont aussi violés d'ailleurs pour produire du sperme. Donc ça, pour moi, ça ne fait pas trop sens de dire qu'elles sont victimes de sexisme. Par contre, je pense qu'il y a des cas de réelle intersection dans le cas des animaux non humains. On parlait du langage tout à l'heure. Il y a en fait le biais, ce qu'on appelle le biais androcentré, donc le côté que par défaut l'humain désigne un homme. Ça se retrouve aussi en fait avec les animaux. Quand on dit un animal, enfin en anglais ça marche mieux quand on dit animal, même les très jeunes enfants vont penser à un animal mâle, par défaut. Le référentiel de l'animal, c'est un mâle. Donc on voit que ça, là-dessus, il y a une intersection où par défaut, on va penser que le masculin est neutre. Il y a d'autres exemples, alors il y a encore assez peu d'études là-dessus, mais il y a notamment le cas des animaux de compagnie. On a quelques études qui ont été faites là-dessus, les chats, les chiens. Il y a un peu... On se rend compte qu'en fait les mâles sont moins stérilisés que les femelles, de manière générale. Et quand on regarde en détail comment les gens justifient ça, qu'est-ce qui les motive à ne pas stériliser, pas faire stériliser leurs animaux, il va vraiment y avoir des discours qui relèvent en fait du sexisme. Par exemple, des gens qui vont dire je trouve ça immoral de castrer les chiens parce que c'est une atteinte à sa virilité, c'est enfin ça se fait pas, c'est un mal, il y a une question de masculinité en fait. Et donc il y a des arguments sexistes qui sont mis sur les autres animaux pour justifier une non-stérilisation qui du coup peut nuire en fait aux, bah, notamment aux femelles, je pense aux chats qui, bon, pour qui la reproduction n'est pas hyper fun. Mais du coup, bon c'est pas grave. Mais du coup, on peut retrouver en fait l'application de stéréotypes de genre sur les autres animaux. Je peux vous citer juste un extrait d'une étude qui dit « Si les individus ont toujours utilisé des stéréotypes de genre pour expliquer les interactions humaines, ils les utilisent désormais également pour expliquer les comportements des animaux. » Parce que pareil, on voit en fait des explications relatives au genre sur les animaux. Par exemple, on a des études sur les chevaux où les gens vont attribuer des caractéristiques différentes selon si c'est une femelle ou un mâle. Les femelles vont être considérées comme têtues, comme un peu embêtantes quand même. Elle est un peu chiante, quoi. C'est vraiment l'idée. Alors que les mâles, ils vont être considérés comme plus... c'est pas sérieux le terme, mais plus impressionnant, plus voilà, plus raisonnable. Ils vont être considérés comme forts, etc., etc. Donc on a vraiment ce discours genré posé sur les animaux non humains. Et ce serait un exemple d'intersection, mais je pense qu'il faut plus de données là-dessus parce que, comme je vous ai dit, ça reste encore assez assez anecdotique. Voilà.
Oui, je voudrais parler de l'animalisation comme phénomène qui permet d'installer une domination. Et c'est, on pourrait dire que c'est la matrice en fait, de beaucoup d'oppression. L'oppression, bien sûr, des autres animaux. On se dit, bah, animaliser les autres animaux, c'est un peu étrange. Mais si, en fait, nous sommes des animaux, biologiquement. Donc quand on expulse les autres animaux en dehors de notre groupe en disant « eux, ce sont des animaux et nous sommes des humains », c'est un problème au niveau biologique. C'est donc que c'est une construction sociale. La construction sociale du groupe des humains versus tous les autres animaux, ça permet de se débarrasser d'eux et de dire « nous, on s'octroie des droits qu'on n'octroie pas aux autres ». C'est la première étape de l'animalisation. Et après, quand elle est aussi utilisée vers d'autres groupes sociaux pour exclure d'autres groupes sociaux comme le groupe des femmes mais également les groupes racisés par exemple, les personnes en situation de handicap, ça permet aussi d'expulser ces groupes-là en dehors de la vie sociale, en dehors de la citoyenneté par exemple. Là je voudrais citer un anthropologue, Ghassan Hadj, qui parle du phénomène de l'animalisation comme déclaration d'une intention. Quand on animalise autrui, quand on animalise un autre animal ou un autre être humain, on déclare en fait une intention. Et ces intentions, elles ne sont pas positives comme vous imaginez. C'est une intention de tuer, une intention d'exterminer ou une intention d'exploiter. Donc ce phénomène de l'animalisation, pour les animaux, on le voit partout. Et on le voit pour les femmes dans les expressions, par exemple, donc dans l'impérialisme culturel. On donnait les exemples de « les femmes sont des chiennes, des chattes, etc. » Ce phénomène-là, il est central dans la mise en marche du système oppressif. Et pour revenir peut-être à la bicatégorisation hiérarchisée, qui est un terme un petit peu universitaire pour dire qu'en fait, d'abord, on distingue, on fait deux groupes et après, on les hiérarchise. Il y a une théoricienne féministe qui s'appelle Colette Guillaumin, qui l'exprime très bien en disant « Les hommes ne sont pas différents, les hommes sont, alors que les animaux sont différents. Les hommes sont et les femmes sont différentes. Les hommes sont et les animaux sont différents. » On peut continuer la liste. Les valides sont, les personnes en situation de handicap sont différentes, etc. Donc ce sont les façons dont les systèmes s'installent et qui pèsent autant sur le groupe des femmes que sur le groupe des animaux non humains.
C'est un peu quelque chose qui reproduit une forme de domination par la différence, c'est-à-dire qu'on va exclure finalement un groupe par rapport à son groupe qu'on considère comme le meilleur ou celui qui mérite d'exploiter l'autre groupe. Effectivement, ça se voit dans tous les systèmes sociaux.
Donc ça veut dire que quelque part, pour vous, il n'y a pas seulement une corrélation entre les deux, il y a aussi une forme de renforcement mutuel quand finalement il y a de l'exploitation animale et qu'on est dans un système spéciste où finalement on va considérer qu'on est supérieur aux animaux, donc on peut les consommer, donc on peut les violenter, sans que ça ait la même valeur qu'une violence qu'on s'attribuerait à nous-mêmes ou à quelqu'un qui nous est, qui est dans notre team, dans notre groupe. Du coup, comment on explique un petit peu ce phénomène ?
Comme je le disais au début, la question de l'animalisation, en fait, elle n'est possible que parce que les animaux sont dénigrés. Si jamais être traité d'animal, c'était quelque chose de neutre, on ne pourrait pas animaliser les individus. Littéralement, ça ferait... dans un monde où c'est juste neutre de dire tu es un animal, par exemple, si c'était descriptif, il n'y aurait pas cette charge négative-là. Et c'est bien parce que le spécisme existe, parce qu'on dénigre déjà les animaux, qu'on peut utiliser cette force-là, cette force dénigrante-là, pour dénigrer aussi les autres humains, les groupes marginalisés de manière générale. Il y a un modèle en psychologie sociale qui s'appelle le modèle interspécifique des préjugés, qui théorise ça, qui mesure ça. En gros, l'idée, c'est que sur l'idée que les humains sont fondamentalement différents et supérieurs aux animaux, ça sous-tend en fait toutes les autres discriminations. Et donc c'est parce qu'on considère que cette différence existe qu'on peut la projeter sur les autres humains et donc les déconsidérer. Et ça marche notamment avec le... Alors, j'ai pas connaissance de tests causaux sur le sexisme, mais en tout cas sur le racisme, on sait que réduire cet écart-là, donc rapprocher les humains des animaux en mettant en avant les similitudes, ça réduit indirectement le spécisme. Donc il y a vraiment quelque chose de causal derrière, en fait, on se sert de cette charge-là pour exploiter et dénigrer les autres. Et inversement, ça marche aussi dans l'autre sens. Le sexisme va renforcer le spécisme. Il y a notamment toute la culture viriliste avec l'encouragement à la consommation de viande. Alors là, on a pléthore d'études dessus. On sait que les hommes sont généralement plus favorables à la consommation de viande, qui sont globalement moins végétariens, moins véganes, dans les faits. Qu'ils ont aussi, donc, comme je disais, ils se montrent plus favorables. Même dans parmi les mangeurs et les mangeuses de viande, les justifications ne sont pas les mêmes. Les femmes, elles vont avoir tendance à être... à utiliser des stratégies moins directes, moins assumées, elles vont être en fait plus mal à l'aise avec la consommation de viande. Donc elles vont par exemple éviter de penser aux animaux quand elles les mangent, pour se distancier d'eux. Par contre, les hommes, ils vont avoir un discours qui est beaucoup plus assumé, beaucoup plus revendicatif, en disant « oui, bah, c'est normal que je les mange parce que je suis supérieur à eux ». Donc il y a vraiment, même parmi les mangeurs-mangeuses de viande, il n'y a pas les mêmes arguments qui sont donnés et qui montrent en fait une différence genrée dans le rapport aux animaux. Il y a aussi une étude assez rigolote, on s'entend, qui montre que les hommes qui se sentent menacés dans leur virilité, ils vont se montrer plus favorables à l'achat de viande rouge pour récupérer une forme de virilité. Donc il y a vraiment ce côté-là de la viande est associée à la virilité. Et il y a des études qui ont montré que plus précisément, c'est la viande animale qui provient du meurtre qui a cette charge virile. Parce que quand on mesure, par exemple, quand on compare à la viande végétale, donc par exemple un steak végétal, ou quand on compare à la viande de culture, donc qui vient d'un animal mais qui n'a pas été tué, il n'y a pas cette charge virile-là. C'est vraiment dans la viande qui vient du meurtre qu'il y a la dimension viriliste, en fait. La dimension masculine qui est portée par la viande. Donc, le fait d'avoir tout ce discours sexiste que les hommes doivent être forts, les hommes doivent être virils, les hommes doivent être violents, etc., etc., ça renforce le spécisme qui est une manifestation de cette violence.
Je voulais revenir peut-être à Carol J. Adams, qu'on a évoqué tout à l'heure rapidement en introduction. Donc Carol Adams, elle est toujours citée quand on évoque cette intersection entre le spécisme et le sexisme, parce qu'elle a théorisé une notion qui est très éclairante, qui s'appelle le référent absent. Qu'est-ce que c'est que ça, le référent absent ? C'est le fait que, en fait, on n'a pas beaucoup parlé d'invisibilisation, mais c'est aussi une autre caractéristique en fait de ces deux dominations, c'est que elles invisibilisent les personnes dominées, les individus dominés, et ça s'exprime par le référent absent. Le référent absent, c'est facile à illustrer avec les animaux non humains quand ils deviennent de la viande, ben on les appelle viande. Ça renvoie plus du tout à l'individu dont on a utilisé la chair pour constituer cette viande. Et donc, les animaux deviennent des référents absents dans la viande, c'est-à-dire que l'individu est séparé du produit. Et ça permet, comme le disait Lila, de faciliter la consommation. Et pour les femmes, on se dit, pour les femmes, ça ne marche pas, on ne mange pas les femmes. Non, on ne mange pas les femmes, mais on consomme d'une autre façon leur corps, c'est-à-dire visuellement, dans la culture, dans la publicité, dans la pornographie, etc. Et là aussi, les individus femmes deviennent des référents absents par cette forme de consommation symbolique. Donc Carol J. Adams, elle théorise cette notion de référent absent et elle montre que il se met en place, cette consommation littérale ou symbolique, elle se met en place par trois étapes. La première, c'est le fait de transformer l'autre en objet. On appelle ça la réification ou la chosification. La deuxième étape, c'est de fragmenter cet objet. C'est-à-dire, on le sépare, pour la viande, on voit très bien la découpe, la boucherie. Et puis on donne des mots un petit peu étonnants aux parties du corps des animaux qui sont mangés, comme ça on les identifie encore moins. Et pour les femmes, c'est encore une fois plutôt symbolique, mais on les découpe en différentes parties de leur corps, donc certaines parties sont valorisées. Et puis ensuite, c'est la consommation littérale pour les animaux, dont le corps constitue le produit consommé, et la consommation symbolique culturelle pour les femmes.
Ça me fait penser à ce que vous dites sur finalement comment est représentée la femme au cinéma. Et souvent, elle est découpée en morceaux, c'est-à-dire on filme les femmes, une fesse, un sein, une partie de la jambe, alors que l'homme va être filmé beaucoup plus globalement dans l'entièreté de son corps.
Oui, tout à fait.
C'est une manière de chosifier ou de réifier le corps de la femme.
C'est un exemple de référent absent typique.
Et effectivement, il y avait aussi une étude, il me semble, sur les écoliers qui avait montré qu'ils ne pensaient pas que les nuggets, ça provenait d'un animal, puisque c'est un nuggets. C'est pas vraiment une partie d'animal.
On voit que l'impérialisme culturel a bien travaillé.
Oui, c'est ça.
Puisque
c'est...
le résultat est là.
Même des nuggets végétaux. Mais bon, là, il n'y a pas d'animal. Donc, voilà.
Et on le voit aussi d'ailleurs avec les termes. Je crois que c'est un peu ce que tu sous-entendais ou ce que tu disais. Par exemple, blanquette de veau, ça ne dit pas du tout quelle partie de l'animal c'est. C'est pas du tout clair. Pareil, steak, ça ne dit pas. On ne dit pas, je ne sais pas. Ça existe dans certains animaux, par exemple les côtes ou ce genre de choses, mais il y a des fois, vraiment, ça n'a aucun lien avec l'individu. Et il y a... alors, on a, je crois, une étude, donc il faudrait la comparer avec... Enfin, il faudrait répliquer la chose. Mais on a une étude, je crois, qui montre que, justement, présenter les animaux par morceaux ou l'individu entier, ça fait une différence en fait dans la réception qu'on en a, dans la perception qu'on en a. Les gens vont être moins enclins, alors j'ai plus exactement les termes, mais il me semble qu'ils vont être ils montrent plus de dégoût, plus d'aversion, et ils sont plus enclins à consommer un plat végétarien plutôt que carné en fait. Donc on voit que ça a vraiment un impact sur la façon dont on se comporte vis-à-vis des animaux.
Très bien, donc on a un peu posé le débat sur ce qui arrive avec l'oppression, on va dire, pour les animaux comme pour les femmes. Maintenant, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des pistes aussi de lutte, comment faire pour amener finalement les gens à prendre conscience aussi de ces processus-là pour qu'ils puissent ne plus consommer de viande ou ne plus consommer les femmes comme ils les consomment. Quel élément on pourrait apporter pour nous aider, nous militants finalement, à pouvoir aussi faire évoluer tout le monde dans cette représentation-là du monde.
Du côté linguistique, on peut déjà appliquer une vigilance linguistique. C'est-à-dire quand on prend conscience, par exemple, que les métaphores sont une catastrophe, sur le plan idéologique, véhiculent en fait tout un tas de choses qui permettent de légitimer sans qu'on s'en rende compte. Hein. C'est vraiment ça la puissance du système, c'est sans qu'on s'en rende compte, ça véhicule. Prendre conscience de ça, alerter les gens qui disent « là, tu utilises une métaphore spéciste, est-ce que tu te rends compte quand tu dis « hier, j'étais dans le train, il faisait très chaud » et il y a quelqu'un qui dit « ça pue le fennec ici », bon, ça, c'est typiquement une expression sexiste. Les fennecs n'ont rien à voir avec l'odeur des corps humains, par exemple. Donc, appliquer une vigilance linguistique et puis essayer d'être sensible à cette vigilance-là dans son entourage. Sur le plan culturel, cinématographique et BD, parce qu'ici, on est dans un environnement où ce matin il était question d'un prix littéraire animaliste. Je signale l'existence de deux outils qui s'appellent le test de Bechdel-Wallace pour les productions culturelles sexistes et le test Simba pour les productions spécistes. Juste pour les présenter très brièvement, le test de Bechdel-Wallace, c'est un test qui dit si vous n'avez pas envie d'aller voir des films sexistes, demandez-vous si dans le film il y a deux femmes. Est-ce que ces deux femmes parlent ensemble ? Et est-ce qu'elles parlent ensemble d'autre chose que d'un homme ? Ah oui, si c'est le cas, c'est pas un film sexiste. Vous allez voir que peut-être vous allez avoir du mal. Et les films spécistes, alors c'est le test Simba. Ça marche aussi pour les BD, ça marche aussi pour les livres. Donc, est-ce qu'il y a des stéréotypes ? Le S, c'est pour stéréotypes. Est-ce qu'il y a des stéréotypes négatifs des animaux ? Des clichés ? Est-ce que les animaux sont représentés comme des individus ou alors comme des masses indéterminé.
Est-ce qu'il y a le phénomène de mémoire du poisson rouge? C'est un peu la même chose que le stéréotype, mais plutôt au niveau du langage. Est-ce que la violence envers les autres animaux est banalisée? Est-ce qu'on les mange? Est-ce qu'on les extermine, etc.? Et est-ce qu'on utilise des animaux réels ou plutôt des animaux en images de synthèse, par exemple? Je pense à des séries récemment qui, dans des scènes de chasse ou dans des scènes de violence, au lieu d'utiliser des animaux réels, même s'ils ne sont pas plus ou moins bien traités, mais utilisent des images de synthèse où la question de leur traitement, du coup, ne se pose plus.
Pour la référence, le test Simba, ça a été fait par l'Observatoire du spécisme. Donc, ils ont un site, un compte Instagram sur lequel vous pouvez retrouver le test. Par rapport à la question du langage, je voulais ajouter, j'ai un post là-dessus qui s'intitule « Spécisme et langage » où j'explique un peu justement l'influence que peut avoir le langage, les quelques exemples d'expressions spécistes, aussi de découpage, enfin de conceptualisation spéciste, typiquement dire l'homme, enfin l'humain et l'animal, c'est une division spéciste. Donc voilà, il y a quelques exemples et des exemples aussi de comment on peut changer son langage. Donc voilà, juste pour l'info, mon stand est juste derrière, c'est l'instant auto-promo. Et je voulais aussi ajouter qu'on peut aussi se poser la question de pourquoi faudrait le faire, pourquoi faudrait essayer de changer en fait tout simplement d'être moins spéciste, moins sexiste. Du point de vue féministe, on pourrait se dire que en fait, même si on était extrêmement égoïste, il y aurait un intérêt à lutter contre le spécisme. Ne serait-ce que parce que ça a une influence, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué, ça a une influence sur le sexisme. Donc, d'un point de vue égoïste, il y a un intérêt pour les féministes à lutter contre le sexisme, contre le spécisme. Et j'ai envie de dire aussi, il y a une question de cohérence. Est-ce que quand on lutte pour la justice sociale, on lutte pour notre propre intérêt, et donc tant que je suis dominée, je vais lutter pour la libération des dominés, mais dès que je suis dominante, bah, je m'en fous? Ou est-ce qu'on lutte vraiment pour la libération de tous et de toutes? Et si c'est le cas, si on est vraiment pour la libération, il y a un enjeu de cohérence à tout simplement être antispéciste si on est féministe, de la même manière que c'est pas très cohérent d'être féministe et d'être raciste, ou d'être féministe mais d'être homophobe. Enfin, y a un enjeu de cohérence tout simplement. Donc j'encourage les féministes qui nous écoutent potentiellement à s'intéresser à la question du spécisme, qui est une lutte sociale au même titre que le féminisme, et dont on devrait se saisir à partir du moment où on se revendique de gauche. Il y a notamment un article publié dans l'Amorce qui s'appelle, alors le titre, je ne sais plus si c'est exactement lui, mais « Lettre ouverte au milieu féministe » ou quelque chose comme ça, « Lettre ouverte aux féministes », qui a été écrit par des féministes antispécistes et qui explique justement comment se matérialise le spécisme dans les milieux féministes et comment on peut lutter contre. Par exemple, il y a un exemple qui m'a un peu marqué dans leur article, qui est la question du barbecue. Des fois, il y a un peu une récupération, parce que le barbecue est très connoté masculin, de se dire « Ok, on est des femmes capables, on va se réapproprier nos vies, et du coup, on va nous-mêmes faire le barbecue, on va arrêter de... » Enfin voilà, c'est un symbole, en fait, typiquement masculin, on va se le réapproprier dans les milieux féministes. Et en fait, ce que ça implique, c'est qu'on fait cuire des carcasses d'animaux. Est-ce que c'est vraiment cohérent? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement, lutter contre le sexisme? Oui, mais peut-être sans mettre des bâtons dans les roues aux autres luttes, et sans renforcer l'oppression des autres animaux, en fait, sans acquérir un pouvoir, c'est pas, enfin, acquérir un pouvoir en enterrant les autres, c'est pas le but d'une lutte sociale, à mon sens. Et on devrait être en faveur de la libération de tous et de toutes.
Oui, l'idée, c'est plus de pouvoir. On est tous en interdépendance. Ouais. Alors, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Émilie?
J'aurais peut-être voulu dire un mot sur les stratégies des dominants.
Ouais, très bien.
Y aurait beaucoup à dire, hein, donc je voudrais juste donner un exemple en fait, qui fait encore le croisement entre les deux types de domination. C'est le renversement. C'est-à-dire que le système oppressif peut être tellement puissant qu'il va réussir à renverser le fait et rendre l'oppression désirable. Il y a un exemple qu'on donne souvent quand on s'intéresse à la question animale, c'est l'alimentation suicidaire, suicide food, c'est-à-dire la représentation des autres animaux comme étant heureux de s'autodétruire pour être mangés par nous. Donc typiquement les devantures de boucherie où il y a des cochons hilares, bon bah ça c'est le renversement de l'oppression, c'est montrer la violence comme quelque chose de désirable, qui est bien sûr le contraire de ce que veulent les animaux. Et du côté féminin, on le retrouve dans l'image de la potiche. On le retrouve dans une autre image aussi qui fait le croisement aussi avec la domination des personnes racisées, qui est l'image dans les films où les personnes afrodescendantes sont représentées comme étant heureuses d'être au service des blancs.
Donc le mythe de la mamie noire, qui est souvent une nourrice très loyale à sa famille blanche. Elle n'a pas d'amis noirs, elle est que loyale à sa famille blanche et elle est très heureuse d'être au service des Blancs. Donc ça c'est des caricatures, mais c'est tellement énorme que parfois même elle nous échappe, on n'identifie pas, mais c'est vraiment un système d'imposition, une stratégie de domination par le renversement.
Bon, on peut passer aux questions si vous avez les uns et les autres des questionnements, des remarques qu'on pourrait, que nos invités pourraient relayer et préciser. Faut se lancer, je suis sûr. C'est sûr que vous avez des questions. On va attendre jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui se décide.
On était extrêmement clair, c'est pour ça.
Alors moi j'ai une petite question, du coup, pour le coup. Parce que personne ne se lance, moi je me lance. Sur la notion de vulnérabilité, enfin, je ne sais pas si ça vous est familier, mais disons que en vous écoutant, je me disais, la caractéristique finalement des personnes qui vont être dans un système opprimé et qui vont être à la place de l'opprimé, c'est cette vulnérabilité qu'on leur suppose. Parce que les animaux sont facilement, finalement, on peut facilement les mettre dans des abattoirs, c'est assez facile. Les femmes, finalement, sont assez dociles. Les personnes racisées ou les personnes ayant un handicap, c'est considéré comme des personnes vulnérables. Or, on est tous, à un moment donné, vulnérables. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas moyen de trouver des leviers pour pouvoir faire évoluer les mentalités sur cette notion-là? Finalement, le côté de domination, c'est aussi parce qu'on pense qu'on est... qu'on est mieux ou qu'on est moins vulnérable, qu'on est plus fort que les autres. Est-ce que vous auriez des pistes pour essayer de faire émerger cette notion un peu de vulnérabilité qui nous transcende, donc qu'on partage tous, en fait, à un niveau de nos vies?
Moi, j'aimerais bien parler, plutôt que de la vulnérabilité, de la résistance. Parce que c'est une chose qui est invisibilisée, qui a été invisibilisée dans l'histoire des femmes. Les femmes qui résistent à l'oppression sexiste. Avant la théorisation des mouvements des femmes et l'histoire des femmes, l'histoire féministe, on ne considérait pas que les femmes étaient des résistantes. Et c'est parce que soudainement, il y a des historiens, des historiennes qui sont intéressés à ça et puis qui ont montré que si, les femmes sont des résistantes. Ça montre qu'elles sont effectivement vulnérables, mais qu'elles sont aussi des agents de leur propre vie. Et pour les animaux non humains, c'est pareil, c'est beaucoup plus récent. Mais il y a des œuvres qui datent. La première, c'est un historien qui s'appelle Jason Fribal, qui a écrit un livre sur la résistance animale et qui montre que si les animaux résistent, les animaux non humains résistent à l'oppression humaine, et même des petits animaux, ils résistent par des choses qui nous sont parfois imperceptibles, mais juste le fait d'être dans une immobilité tonique, c'est une forme de résistance. Les stéréotypies, c'est-à-dire les animaux qui sont enfermés dans des zoos, qui se balancent d'un côté sur l'autre, c'est une forme de résistance. Et puis il y a des formes de résistance beaucoup plus spectaculaires aussi, comme les animaux, les cochons qui s'échappent d'un camion qui les emmène à l'abattoir, les orques qui emmènent leur dresseur ou leur dresseuse au fond d'un bassin. Ce sont des formes de résistance. Donc les animaux non humains et les femmes sont capables, dans une certaine mesure, parce que c'est beaucoup plus... Pour les animaux non humains, c'est quand même un petit nombre qui est en mesure de résister jusqu'au point de se libérer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qui serait important de ramener aussi à la connaissance.
Ouais. De rendre visible, effectivement. Ouais.
Peut-être je peux ajouter là-dessus, le simple fait qu'il existe des cages, des chaînes, des modifications génétiques qui visent à rendre les animaux dociles. Aussi, on a toute la logique de l'impuissance apprise ou impuissance acquise, qui est le conditionnement à obéir. On le voit beaucoup sur les éléphants, qui sont conditionnés dès le plus jeune âge à obéir pour justement être rendus dociles. Tout ça, c'est des traces, des indices de l'existence d'une résistance. Parce que si les animaux ne résistaient pas, il n'y aurait pas besoin de mettre des cages. Donc rien que l'existence de tous ces éléments, c'est quand même beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour rendre les animaux vulnérables et pour les rendre... pour les placer comme étant à la merci des humains, en fait. Et s'ils ne résistaient pas, il n'y aurait aucun sens que ça n'existe.
Merci. Est-ce que ça vous a donné envie de poser des questions?
peut-être s'il n'y a pas de questions, je peux ajouter une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que j'encourageais fortement les féministes à s'intéresser à l'antispécisme. J'ai envie de dire exactement la même chose dans le sens inverse. J'encourage fortement les antispécistes à s'intéresser au féminisme et à théoriser le féminisme, déjà parce que ça rendra nos luttes plus solides, parce qu'il y a un enjeu de cohérence. Comme je disais, ça n'a pas de sens d'être féministe et d'être spéciste. Ça n'a pas non plus de sens d'être spéciste et d'être sexiste. Si jamais on considère que la domination, c'est quelque chose de mal, que tout le monde doit être libre, ça fait sens de lutter contre la domination des femmes. Et de même, d'un point de vue purement égoïste, ça a du sens de s'intéresser au sexisme quand on est antispéciste, parce que justement, tout ce discours de la virilité, tous ces rôles genrés, etc., ça renforce la domination spéciste. Donc bref, faisons de la cohérence des luttes. Je vous encourage vraiment à croiser, en fait, à aller vers les milieux féministes et inversement, à inviter les milieux féministes à venir vers vous. Donc voilà, à croiser les luttes et à montrer de la solidarité interlutte, au minimum de la non-nuisante, au mieux de la solidarité vraiment active. Voilà.
Bien, donc j'imagine, c'est que vous n'avez pas de questions, si vous applaudissez, toujours pas. C'est ça. Juste pour terminer, Lila, je vous ai... Ah, pardon. Ah ben, parfait. Est-ce que...
Oui, bonjour. Moi, je ne connais pas tous ces mouvements, mais je m'intéresse quand même à la vie humaine et aux vivants, parce qu'on fait partie quand même d'un tout, même si on est quand même différents des animaux, qui développent des pouvoirs totalement différents de nous et qui ont des capacités d'adaptation mille fois supérieures aux nôtres, et à leur milieu surtout aussi. Et c'est vrai que la vie humaine et la vie animale, elle est millénaire et que ça a toujours été ambivalent. Ça a toujours été... on a utilisé les animaux pour les faire travailler, on a utilisé les animaux pour progresser, on a utilisé... on a beaucoup de mal aussi à les connaître, mais on arrive à mieux les connaître de plus en plus. Et je ne vois pas toujours que les côtés négatifs non plus. Mais après, c'est nous, quoi. Soit on fait des choses très négatives, comme là, sur consommation, alors qu'on ne peut plus... sur production alors qu'on peut plus alors que tout le monde sait que c'est uniquement pour de l'argent et que ça fait du tort à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est dans ce milieu là où n'importe qui prend conscience que c'est important et on a tous eu des relations avec des animaux et on sait que quand on leur fait du mal ça fait très mal et quand on perd un animal ça fait très mal et que là on se dit on est comme eux, on est vivant et voilà, donc moi c'est mon ressenti et j'espère que la relation entre les hommes et les animaux c'est aussi une histoire de confiance et je pense elle existera toujours et puis il y aura toujours des personnes qui les défendront et voilà, qui essaieront de les sauver. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Ça m'évoque un peu la notion de la rencontre. C'est vrai que si on rencontre vraiment une personne, un animal, une personne, tout d'un coup, elle nous apparaît sous impossible à dominer si vraiment on la rencontre vraiment, profondément, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Ça, c'est quelque chose qui s'exprime bien dans les œuvres qu'on a récompensées avec le prix Maya. Et c'est des rencontres individuelles, mais même d'animaux qui vivent dans un autre élément, c'est-à-dire des rencontres individuelles avec des cachalots qui déclenchent des choses incroyables sur un ressenti, sur l'appartenance d'un tout, effectivement, mais aussi sur le fait que ces animaux sont des individus. Parce qu'on a l'habitude de les représenter sur tous les animaux aquatiques qui sont vraiment peu considérés. On a plutôt l'habitude de les représenter comme des masses indistinctes, des poches où on rassemble tous les animaux aquatiques. Il y a les animaux aquatiques, il y a des mammifères, il y a plein d'autres animaux. Parfois, certains sont très petits. L'animal le plus consommé, tout à l'heure, je parlais du cochon, mais en fait, ce sont les crevettes de très, très loin. Le nombre d'individus crevettes qui sont utilisés, exploités pour l'alimentation humaine est sidérant, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Donc, rencontrer une crevette vivante dans son...
À l'environnement de cette crevette et à ce qu'elle vit, elle, effectivement. Ouais. Ce que nous expliquaient les intervenants tout à l'heure, ceux qui ont reçu le prix Maya, c'est que finalement cette rencontre, elle s'est imposée à eux parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui les a touchés.
Moi, je voudrais peut-être juste mettre en garde un peu sur ce côté peut-être d'avoir une vision de grand tout, de système organisé qu'on ne devrait pas déranger, etc. En fait, il y a un risque que ça renforce le statu quo, que ça renforce la situation telle qu'elle est, parce qu'il faut se rendre compte qu'on a un pouvoir de domination sur les autres animaux qui est absolument énorme. Ils ont très très peu de marge de manœuvre, ils peuvent difficilement s'exprimer, il y a très peu de gens qui peuvent les représenter, ne serait-ce qu'au niveau de la loi, c'est extrêmement difficile de représenter, de faire valoir les intérêts, les droits des animaux, surtout qu'ils n'ont pas vraiment de droits. Donc il y a vraiment on a vraiment un pouvoir sur eux qui est absolument énorme. Et je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça quand on conceptualise le monde, parce qu'on parle toujours de notre propre point de vue. Il faut faire l'effort de se mettre à la place d'autrui. Il faut faire l'effort de se mettre à leur place à eux, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qui est bon pour eux. Et je pense qu'on peut avoir vite tendance à projeter un peu ce qui nous arrange. On est très fort pour rationaliser. Donc ça peut être assez facile de juste maintenir la situation telle qu'elle est en justifiant après... je pense notamment aux discours néo-spécistes qui viennent des milieux écologistes qui vont dire « Oui, mais c'est normal d'exploiter les animaux parce que c'est naturel, le cycle de la vie, c'est comme ça, etc. » Je pense qu'il faut vraiment être vigilante à cette naturalisation de l'oppression. Il y a vraiment toute une construction, il y a un système qui s'est mis en place, un système de domination qui est d'une violence extrême, et il faut vraiment faire attention à pas la rendre naturelle, à pas la légitimer parce que ce serait comme ça depuis longtemps, ou ce serait comme ça que le monde fonctionne, et donc ça devient ok. Il y a exactement les mêmes discours qui ont eu lieu sur les femmes, tout le discours sur l'instinct maternel par exemple, je pense à ça, les discours de dire les femmes sont naturellement adaptées pour faire des enfants et s'en occuper, c'est des discours qui renforcent le sexisme. Et vraiment, ils sont pas neutres, ils sont pas anodins, ces discours. Ils servent une idéologie, ils servent un système sexiste. Il faut être très vigilant à ça. Et je pense, comme je disais, d'autant plus dans le cas des animaux, parce qu'ils ont difficilement les moyens de se défendre ou de revendiquer leurs intérêts. This is my hand, this is my wrist, this is my arm, this is my fist. Like a twisted vine wraps around entwining. This is my face, this is my mouth, this is my eye, this is my brow, like lilac wine pouring out to thee, for thee. This is my shape, this is my form, this is my age, this is my frame, this is my mind, this is my voice, this is my heart. This is my choice. This is my thigh. This is my sex. This is my hip. This is my breast. This is my shadow. This is my hate. This is my line. This is my doubt. This is my gloom. My flame. My joy. My shape, this is my form, this is my age, this is my frame, this is my mind, this is my voice, this is my heart, this is my choice, this is my time, this is my breath, this is my right, this is my left, this is my shadow.